Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Jésus-Christ et son Église. Voilà le titre de notre nouvelle série que nous commençons aujourd'hui.
La Bible insiste sur la valeur et l'importance de l'Église. Pour cela, elle emploie plusieurs images pour nous aider à mieux comprendre sa place dans nos vies. Nous allons discuter de ces illustrations en compagnie de notre invité, Alain. Alain, bienvenue sur le plateau d'Espérance aujourd'hui.
Merci Yann pour votre accueil et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons simplement introduire notre série en rappelant des notions de base sur l'Église. Puis j'énumérerai les illustrations trouvées dans le Nouveau Testament dépeignant la relation entre Christ et son Église.
Merci. Et par où voulez-vous commencer?
Je voudrais commencer par citer un proverbe qui est, je le pense, assez connu. Il faut tout un village pour élever un enfant.
Et quel est le sens de ce proverbe?
Ce proverbe rappelle l'importance de la vie en communauté. Bien sûr, un enfant vit des relations privilégiées avec ses parents et ceux-ci ont des responsabilités toutes particulières envers lui. Toutefois, le noyau familial n'existe pas isolé du reste du monde car il prend sa place dans la communauté. Tout un réseau de personnes avec une certaine influence vont aider les parents à élever leur enfant et à grandir. Dans un village, un enfant apprend d'un grand nombre de personnes et il marche ainsi vers la maturité avec leur appui, les uns et les autres servant d'exemple et de modèle, bon ou mauvais. Tout ceci pour affirmer que le bien-être d'une personne dépend en grande partie de la qualité de sa vie communautaire, c'est-à-dire de ses relations avec ceux qui l'entourent. Malheureusement, de nos jours, la vie communautaire subit de fortes pressions et se perd petit à petit. Pour des raisons sociales et économiques, les familles ont tendance à se disperser. De plus en plus de personnes vivent dans de grandes villes. Il est triste de le constater, mais la vie urbaine ne tend pas à reproduire les communautés resserrées des villages. Beaucoup s'y sentent seuls, anonymes, livrés à eux-mêmes et sans réseau de soutien.
Merci Alain, mais quelle est la pertinence de tout cela pour notre sujet, Christ et son Église?
Le proverbe « il faut tout un village pour élever un enfant » rappelle l'importance des réseaux de relations personnelles et de la vie en communauté. On ne peut pas faire de progrès vers une maturité de vie et de sagesse si on vit isolé, sans la chaleur des contacts humains. Il en est de même avec la foi chrétienne. Dieu a créé l'Église pour être une nouvelle communauté et il faut participer à une vie d'Église pour bénéficier de tous les avantages de cette vie en commun. Certains croyants pensent qu'il est possible de marcher avec Dieu et de grandir dans la foi, seul, sans fréquenter une église. Ils ont tort. Ils ne peuvent bénéficier d'une piété équilibrée s'ils négligent le côté relationnel si important de l'église. Quand Dieu nous sauve, il nous réconcilie avec lui. Il rétablit notre relation avec lui. C'est merveilleux, mais ses desseins ont une portée plus grande encore. Il veut aussi réconcilier les hommes les uns avec les autres. Il veut resserrer les relations personnelles. Dieu veut recréer de bonnes communautés où règne le respect, l'harmonie et l'amour. Des communautés où ensemble nous marchons vers la maturité, où ensemble nous grandissons dans la foi, grâce à l'accompagnement et le soutien des uns et des autres. Je voudrais modifier le proverbe cité et insister que pour élever un croyant, il faut toute une église.
Merci Alain pour la richesse et l'importance de ces réflexions. Parfois, nous entendons parler de la distinction qui existe entre l'Église universelle et l'Église locale. Pouvez-vous l'expliquer, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. Lorsque nous parlons de l'Église universelle, nous désignons l'ensemble de tous les croyants, quel que soit leur âge, répartis dans le monde entier. Il ne s'agit pas là d'une institution humaine quelconque, mais plutôt de la multitude de gens que Jésus a rachetés par son sang, issus de toute nation, de toute tribu, quelle que soit la langue parlée. Tout chrétien authentique fait partie de l'Église universelle. Il est membre de ce nouveau peuple que Dieu a créé en Christ. Être participant de l'Église universelle représente l'une des multiples bénédictions dont nous bénéficions du moment où nous nous attachons à Jésus par la foi. Quand nous sommes unis à Jésus par la foi, nous sommes forcément unis à son Église. Il ne s'agit pas là d'une option facultative, mais d'un élément fondamental de notre salut. Ensuite, lorsque nous parlons de l'église locale, nous désignons le rassemblement de chrétiens qui, à un endroit géographique précis, aspire à mettre en pratique la volonté de Dieu pour son église. Une église locale est une petite communauté issue du grand peuple de Dieu, une expression dans l'espace et dans le temps des qualités de l'église universelle. Puisque le chrétien fait forcément partie de l'église universelle de par son salut, il doit participer à la vie d'une église locale. Toutefois, parfois, pour des raisons légitimes, un chrétien ne peut pas se joindre à une église. Certains vivent dans des villages isolés où il n'y a guère d'église. D'autres, du fait d'un membre de la famille qui s'oppose à Christ, n'ont pas le droit de s'y rendre. Cependant, un croyant qui choisit sans bonne raison de ne pas s'associer à la vie de l'Église ne mène pas une vie chrétienne normale. Il vit en contradiction avec le salut que Dieu lui a accordé et il se prive de beaucoup de bénédictions.
Merci Alain. Nous avons annoncé au début de notre émission que nous discuterions des diverses illustrations de l'Église qui apparaissent dans les écrits du Nouveau Testament. Pouvez-vous à présent nous en présenter une liste?
Oui, bien sûr. Dans un premier temps, nous découvrirons que l'Église est appelée le peuple de Dieu et que l'image de la famille s'applique aussi à elle. Ensuite, l'une des illustrations la plus souvent trouvée dans les écrits de l'apôtre Paul est celle-ci. L'Église est le corps de Christ dont Jésus est la tête. De même, nous verrons que l'Église est l'épouse de Christ. Certains textes décrivent aussi l'Église comme le nouveau temple de Dieu. Parfois, enfin, l'Église est dépeinte en termes militaires et enfin l'Église est comparée à une lampe ou à un chandelier.
Il s'agit là d'une liste assez riche en signification.
C'est exact, Yann, et nous explorerons le sens de chacune de ces illustrations ou métaphores et en tirerons des leçons pertinentes pour comprendre la matière dont nous pouvons bénéficier au mieux de cette communauté connue sous le nom de l'Église et pour étudier aussi la façon dont nous pouvons y participer et la servir.
Merci Alain. Et comment voulez-vous conclure notre discussion?
Nous l'avons commencé avec un proverbe et nous le terminerons avec une petite illustration. Avez-vous déjà vu un feu de charbon ou même de bois? Pensez aux braises qui, lorsqu'elles sont bien dans le foyer, deviennent rouges et lumineuses. Elles alimentent le feu et dégagent de l'énergie et de la chaleur. Toutefois, si on retire une braise du feu, très rapidement, elle se refroidit. Elle n'émet plus de chaleur ni de lumière. Elle ne sert plus à rien, car elle n'est plus en contact avec les autres braises. Voilà une image de la vie du chrétien dans l'Église. La foi du chrétien qui se retire de l'Église risque rapidement de s'atténuer et de se refroidir, car ce dernier n'est plus en contact avec les autres croyants. Il ne fait plus partie de la communauté de l'Esprit où Dieu agit tout particulièrement. Un chrétien qui se retire de l'Église ne peut plus ni contribuer à la vie de l'Église, ni recevoir d'elle. Tôt ou tard, un tel chrétien en subira les conséquences et l'Église aussi en souffrira, car elle devient privée des bienfaits que ce croyant aurait pu apporter par sa présence et ses dons.
Merci Alain d'insister ainsi sur l'importance de l'Église. Nous sommes impatients d'entendre ce que vous aurez à dire la prochaine fois.
Merci Yann. Au revoir à tous et à bientôt.
Merci Alain. À présent, nous allons écouter une courte méditation biblique. Nous reprenons notre série dans la première épître de Jean. Claude nous fera part de ses réflexions. Mais d'abord, Sandra va nous lire 1 Jean chapitre 3, verset 3.
Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est.
Bonjour à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de rappeler le contexte de cette lettre. Jean écrit à des chrétiens secoués par des faux enseignants et des divisions. L'apôtre veut les rassurer. Il insiste sur le fait de la bonne nouvelle et les fondements de la foi apportés par les apôtres sont dignes de confiance. Il dénonce les nouveautés apportées par les faux enseignants. En Christ, ces croyants ont déjà tout. Ils n'ont pas besoin de courir sur d'autres chemins spirituels mystérieux. Dans le texte lu tout à l'heure, Jean rappelle ce que ces croyants ont déjà reçu en Christ. Il rappelle aussi ce que Jésus leur a promis, ce qu'il leur a réservé pour le jour de son retour. Jean rappelle avec force que ses croyants sont déjà des enfants de Dieu. Que pourrait-il désirer de plus? Être enfant de Dieu, nous l'avons déjà vu, c'est vivre en relation d'intimité et de confiance avec Dieu le Père. Être enfant de Dieu représente une grande joie et un énorme privilège. Puis, Jean évoque quelques éléments de notre espérance éternelle, une espérance qui est garantie du fait que nous sommes enfants de Dieu et que notre Père céleste est à la fois puissant et fidèle. Quand Jésus reviendra, nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Actuellement, nous connaissons Jésus, mais nous ne le voyons pas et nous ne l'entendons pas. Notre connaissance dans le temps présent est bien imparfaite et limitée. Mais le jour viendra où le voile sera enlevé et alors nous connaîtrons Jésus parfaitement. Nous vivrons en communion avec lui, dans la paix et la sécurité, dans la joie et le bonheur. Un bonheur qu'aucune larme ne viendra ternir. Et puis, nous serons semblables à lui. Étant enfants de Dieu, notre Père céleste a déjà commencé à nous transformer, à nous recréer à l'image de son Fils Jésus. Cette transformation sera achevée merveilleusement, en un instant, le jour du retour de Jésus-Christ. Ce jour-là, nos corps seront transformés. Nous aurons des corps de ressuscité comme celui de Jésus. Ce corps sera apte à vivre éternellement dans la nouvelle création. Ce corps ne sera plus assujetti aux maladies, ni au vieillissement, ni à la mort. De même, ce jour-là, nos cœurs seront transformés. Jésus a mené une vie sans péché, une vie juste. Nous avons du mal, aujourd'hui, à l'imiter. Nous luttons à cause de nos cœurs méchants, où le mal est si enraciné. Mais, quand Jésus apparaîtra, nous serons comme lui, et cette lutte contre le mal cessera. Nous ne pourrons plus pécher. Nous pourrons vivre exactement comme Dieu le désire. Oui, au jour de la résurrection, Dieu créera une nouvelle création qui sera parfaite et nous serons enfin semblables à Jésus. Quelle espérance merveilleuse!
Merci Claude pour ces paroles encourageantes. Et merci, chers amis, pour votre écoute. Nous espérons vous retrouver bientôt pour la suite de nos deux séries. En attendant, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.